Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur RFI, bien sûr. Et pour commencer, aujourd'hui, nous évoquerons Paris. Sur le fil, le PSG a battu l'Olympique Lyonnais dans les dernières minutes d'un match intense hier soir. Les Lyonnais ont été bien mal récompensés de leurs efforts car les Parisiens ne sont pas encore vraiment au point. À 7 jours de leur match face à Manchester City, surtout si Messi n'est pas trop content. Tout s'est bien passé au Parc des Princes alors que de nouvelles violences ont émaillé cette sixième journée. Au stade Bollaert, où supporters de Lens et de Lille voulaient en découdre, triste spectacle, les premières sanctions viennent de tomber. Les Reds et Blues aux commandes de la Premier League. Liverpool aidé par ses trois buteurs africains. Sadio Mané d'ailleurs auteur de son 100e but en rouge. À Londres, Chelsea s'impose à Tottenham, une équipe qui nous semble imbattable. Et puis Manchester United qui ferme la marche sur le podium. Et de cela, eh bien, nous en parlerons notamment avec Salim Bongali. Bonjour Salim.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
West Ham... Ouais, Stam n'est
de
pas
quoi
passé.
Vous parlez, je comprends pas.
Les Hammers.
Marrant, il fait souvent le coup comme ça, là. Hein. Il sait pas de quoi on parle.
Je sais pas, je sais
pas. Un Parisien frimeur aujourd'hui.
Ah, je prends.
Bonjour Eric.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Tout va bien?
Bah oui, tout
ouais,
va bien.
Tout va
on
bien.
À 18 points, tout va bien.
Bon, Hervé Penaud, vous êtes un peu penaud face à la prestation de Lyon.
Ah, au contraire. Très ah ouais, heureux de la performance lyonnaise et du match lui-même. Parce que moi, c'est le football, vous savez que j'apprécie.
J'imaginais ce genre de réponse de notre ami Hervé Penaud de l'équipe. David Finzel était là, bien sûr, fidèle au poste. Maïda a préparé l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Dans les arrêts de jeu, le timing, il s'est dressé. Icardi pour le 2-1.
Le PSG a gagné un but de son attaquant argentin qui a libéré les supporters. Ils ont vu, hein, et on va en parler, les difficultés de cette victoire acquise dans les dernières secondes du match, du temps additionnel surtout. On prévoyait un choc entre Parisiens et Lyonnais. Et les Lyonnais, eh bien, ils étaient arrivés un peu toutes griffes dehors. Hein, on les a vus, ils ont même inscrit le premier but. Et jusqu'à la fin, surtout, ils ont essayé de l'emporter, ne se résignant jamais avec des armes. Allez, on va dire des armes lourdes. Royal, le penalty accordé à la 66e minute au Paris Saint-Germain a-t-il changé ou faussé le match ? Salim Bongali.
Faussé ? Oui, vous pouvez utiliser le terme. Oui, c'est le cas. Alors, on le rappelle, ce duel entre les défenseurs de l'OL et Neymar. Au début, c'est vrai que quand on voit l'image à vitesse réelle, on se dit oui, il est fauché. En plus, on est sur le côté gauche de la surface. On visualise Neymar en train de tenter son dribbling et le Lionel fauché. On se dit, Clément Turpin est pas trop loin de l'action au final d'ailleurs. Penalty, pas de souci. Quand on voit le ralenti, pardon, là
quand
c'est
on
plutôt
voit beaucoup de ralentis sous beaucoup d'angles.
Mais
en
oui,
plus.
Mais pas tant que ça, j'ai envie de vous dire. Au final, au bout de deux ralentis, on remarque que c'est plutôt Neymar qui commence, qui continue. J'ai presque envie de dire qui finit et qui presque se fait trébucher par le Lyonnais. Le Lyonnais ne le touche même pas volontairement. Ouais. C'est Neymar
et lui,
qui se fait
toucher. On connaît sa facilité
à tomber.
À tomber.
Et donc, il y a jamais penalty. Et là, où sont les arbitres de l'assistance vidéo qui sont prompts à regarder toutes les actions sur toutes les pelouses, hein? Là, on se dit, mais c'est pas possible. Moi, je ne suis pas arbitre, j'ai jamais été arbitre, mais quand je vois cette action, je me dis, il y a jamais péno, point barre, quoi.
Le Parisien de ce studio avouera-t-il
il a un peu honte là,
j'ai absolument pas honte. Neymar a été très malin sur cette action. Non, mais après voilà, bien sûr, il y a une mauvaise interprétation de Monsieur Turpin. On est d'accord qu'il n'y a pas pénalty, mais en fait dans la chute, voilà, il crée un peu le bazar de ne pas trop savoir.
Théâtral.
Alors que bon, c'est vrai qu'au départ.
Mais Eric, moi je critique même pas Monsieur Turpin parce que l'arbitre peut se tromper.
Non,
voilà.
Non, ouais,
mais ce sont ceux qui sont qui ont les ralentis.
Là-dessus, on est complètement d'accord. C'est que je ne comprends pas sur deux actions ou trois peut-être dans le jeu. il y a aucun retour de sur la VAR et je me dis mais à quoi ça
peut-être
sert
que c'est le
un
micro
outil supplémentaire
pas.
Vous vous souvenez
qu'une fois on avait appris après le match que finalement il n'y avait pas de communication que ça marchait pas entre les le camion de la VAR qui est rarement un camion d'ailleurs
on se demande si ça marche quand même parce que là dans la compréhension des images
et ça change
les
tout
arbitres,
évidemment parce que cette égalisation
change tout
et eux ils avaient marqué à la 56e, 10 minutes après il y a cette égalisation, mais évidemment ça change l'allure d'un match. Hervé Penaud,
oui, ça change tout. Alors je sais pas si Paris aurait gagné ou pas, parce qu'après coup ça aurait été un autre match, mais ils auraient peut-être pu marquer aussi deux buts. Mais toujours est-il que là, sur ce coup, c'est une erreur majeure d'arbitrage. Alors le petit problème avec cette histoire de VAR, c'est que j'ai entendu quelques spécialistes aussi trouver que finalement il y avait peut-être pénalty, dont Thierry Henry qui travaille pour le diffuseur Prime Vidéo, et qui lui a dit bah finalement c'est avantage à l'attaquant, donc ça me paraît logique qu'il y ait pénalty. Donc je me dis
il y a une vraie confusion sur le duel, il y a une vraie malice de Neymar parce que il entraîne un petit peu avec lui le défenseur lyonnais. Défenseur lyonnais qui est un petit peu en retard. Donc la position du défenseur lyonnais prête à se dire bon, il fait faute par derrière et Neymar tombant très bien. Voilà, provoque la chose. Maintenant, quand on voit les images, c'est pour ça qu'on est,
on est
d'accord tous, c'est que les images nous donnent tort.
En plus, j'imagine que Turpin suit autant le football que nous, et donc on sait que Neymar est doué là-dessus.
Non, je crois que même
il aurait
pu se méfier. Je veux même pas mettre ça sur le dos de Neymar. C'est Neymar simplement comme il pousse vers le bas, Malo Gusto, qui veut se relever. Lui, il n'arrive jamais à se relever puisqu'une petite pression dans ce genre de conditions.
Il l'a sous le bras. Donc déjà, il ne pouvait pas se relever,
donc,
ça c'est sûr.
Il ne pouvait pas. Et donc l'autre essaye désespérément, puis au bout d'un moment, il trébuche, tout simplement,
non,
comme n'importe
quelle
personne aurait trébuché.
J'ai presque envie de dire c'est un contact licite, comme ça peut arriver en foot, mais ça ne mérite ni faute, ni situation, rien.
Et le problème, c'est que ça change, ça change le cours du match à ce moment-là.
Après, M. Turpin est quand même coutumier du fait que quand il y a des Paris-Lyon ou Lyon-Paris, il est toujours un petit peu dans le vent, dans les décisions. On se rappelle de la sortie de Lopez qui fonce dans Mbappé. Il est incapable de prendre des décisions, il met rien. Hier, je parlais tout à l'heure de Boateng, mais c'est pareil. Même si on a l'impression qu'il joue le ballon, il finit avec le pied dans Donnarumma.
Mais il fait pas exprès, non?
Je vous ai expliqué.
Il l'a pas vu.
J'ai dit, il fait semblant de pas faire exprès, mais il a quand même le pied qui traîne.
Vous voulez dire que vous l'avez fait, vous, c'est ça?
Je l'ai pas fait, mais je sais qu'on peut le faire. Est-ce que c'est mieux comme ça?
Ça passe mieux. Bon, allez. Il y aurait pas dû y avoir pénalty, peut-être. En tout cas, il y a eu pénalty.
Ouais,
donc,
voilà. Finalement,
le score final est de 2-1. Et on va l'écouter, Neymar. Parce que lui, il était plutôt content du résultat.
Un grand résultat en casa.
C'est un très bon résultat pour nous. Surtout à domicile, on se doit de gagner devant notre public. Nous sommes très heureux d'avoir pu inverser la tendance pour gagner ce match. L'équipe a dégagé une grande force collective durant la rencontre. Nous devons encore nous améliorer, mais petit à petit, nous progressons. Nous nous connaissons de mieux en mieux. C'est comme cela que nous réaliserons nos objectifs cette saison.
Et ainsi que podemos buscar nuestros objetivos.
Neymar en espagnol, n'est-ce pas, et qui dit, se dit heureux d'avoir inversé la tendance. Neymar, qu'on a trouvé bon, on va y revenir, mais il parle d'une grande force collective de l'équipe parisienne. Alors là, Eric, je me tourne vers vous.
Je vais vous expliquer pourquoi il dit ça. Je pense que surtout il est non, mais dans son discours et dans son attitude sur le terrain. Je pense que s'il y en a un qui est bien content de retrouver les supporters, c'est lui, parce que ça l'a transcendé, ça l'a aidé à passer un cap. Physiquement, il est allé jusqu'au bout, il a joué jusqu'au bout, il a été impressionnant en deuxième mi-temps sur ses accélérations. Alors pour quelqu'un qui est pas en pleine forme, il est pas en pleine forme, mais faire ça veut dire qu'il est quand même pas très très
il
loin
revient.
De revenir. Et non, force collective, non. Première mi-temps, oui. La première mi-temps du Paris Saint-Germain, elle est bonne. Ça a manqué de Messi doit marquer un but au moins. Il y a eu d'autres situations. Non, mais c'est vrai, Di Maria a l'occasion de marquer un but aussi. Voilà, il manque peu de choses. Sur l'ensemble du match, Lyon a pas beaucoup d'occasions quand même. Ils ont peut-être deux occasions sur tout le match. C'est pour ça aussi qu'on se dit, bon, voilà.
Hervé, la force collective, c'est surtout ce quatuor de rêve, je sais pas comment les appeler, les quatre magiques, les quatre magnifiques, qu'on attend. Pour l'instant, hier soir, on les a pas encore tout à fait vus.
Bizarrement.
Mbappé, Neymar, Messi, Di Maria.
Bizarrement, moi, je vais être moins dur que pas mal de commentaires que j'ai entendus, effectivement. Moi, je les ai trouvés plutôt intéressants. plutôt intéressant parce que ça permet.
Mais en même... harmonie ou pas?
Ils sont mieux, ils sont mieux.
Ah,
en fait.
Bah, non, mais en harmonie, ça, ils seront jamais en harmonie. En tout cas, laissez-leur un mois, deux mois, trois mois.
D'accord.
Parce que le problème de ces joueurs-là, c'est qu'ils ne jouent jamais ensemble. Ils n'ont jamais joué ensemble. Ils ont peut-être quoi, les 5-6 entraînements. Ils sont partis en sélection, ils ne sont pas là. Ils sont par les entraînements. Donc, en gros, c'est les matchs qui vont les aider justement à parfaire un peu leurs automatismes et surtout à sentir un peu les déplacements. Neymar et Messi, ils se connaissent depuis très très longtemps.
C'est ça, il y a déjà un lien.
Donc, eux, ils savent à peu près, ils se connaissent. Très très bien. C'est après bien. Neymar, Mbappé connaît aussi la manière de jouer d'Mbappé. Mais mettant faut quand vous mettez un voilà, troisième homme dans tout
c'était
ce
c'était pas mal hein, Messi, et moi, Messi et Mbappé en première mi-temps.
Exactement. Et avec Neymar quand il lui met de la talonnade, il va frapper, etc. Il y a eu quelques belles actions. Et moi ce que j'ai trouvé assez intéressant dans ce PSG, c'est qu'ils ont joué beaucoup plus haut. Parce que le seul problème, si vous décidez de jouer avec des joueurs offensifs comme ça, c'est que, bien sûr, il faut qu'ils fassent des efforts à minimum défensifs, mais vous n'allez pas leur demander de faire des courses de 50 mètres, même si Messi, à un moment, a fait une ou deux.
Il y avait, ouais, voilà. Y avait un peu de distance entre les lignes.
Il faut absolument jouer haut pour éviter aux adversaires de ressortir, et puis justement, pour maximiser un peu le travail défensif des joueurs de devant qui n'auront pas à faire des efforts monstrueux. Et je trouve que pendant une mi-temps, même un peu plus, ça a bien fonctionné. Et en deuxième mi-temps, quand Lyon a été obligé un peu de jouer un peu sur ses bases, et ben, d'un seul coup, Paris Saint-Germain avait aussi des possibilités. Et puis, il se crée peut-être plus d'occasions que Lyon, au final, quand même.
Ah, oui.
Parce que Lopez fait plus d'arrêts que Donnarumma, faut pas l'oublier.
Après Neymar, quand il parle de force collective, évidemment, il y a des mots aussi à utiliser. Juste, vous êtes juste après le match, vous êtes auprès du diffuseur, ses propos. Neymar, il parle rarement comme ça, on a un match très rarement.
C'est pour ça qu'on l'écoute.
Donc, ouais. Et justement, et on sait que ces mots-là vont être repris dans toute la presse, dans tous les médias. Donc,
comme Ander Herrera quelques jours avant.
Absolument.
Donc, c'est ça.
Absolument.
Pour faire croire qu'ils avaient bien joué à Bruges.
Exactement. Donc, Neymar, il sait qu'il y a des choses qu'il peut dire et ne pas dire. Après, il y a quand même eu des séquences quand visuellement, vous voyez.
Ça, je suis moins sûr que toi. Il peut dire ou peut pas dire. Je pense pas qu'il soit très calculateur, Neymar.
Après,
c'est un enfant.
Il va pas se permettre de parler de force, de qualité individuelle, plus que de collectif, là, pour le coup.
Bien sûr. Ça, oui, bien sûr.
Mais par exemple, juste pour finir, vous parlez d'une équipe qui était très haute, notamment pour la période, c'est vrai. Mais par séquence, et surtout en seconde d'ailleurs, on a surtout vu une équipe coupée en deux. Avec les 3-4 qui étaient là, avec Neymar qui, lui, pour le coup, faisait ses retours défensifs, les trois autres qui ne descendaient pas trop, et il y avait les 5-6 qui étaient de l'autre côté. Enfin, il y a eu des séquences mais parce que c'est effrayantes quand même.
Non,
pour
mais
défense
parce que
parisienne.
C'est un combat. Moi, ce qui me gêne un petit peu quand on joue le Paris Saint-Germain, c'est qu'on a l'impression que puisque c'est le Paris Saint-Germain, puisque vous avez des stars, vous devez gagner tous vos matchs 3-4-0. Mais c'est pas vrai. C'est du football.
Non,
c'est
hier,
du football de très haut niveau. En face,
ils sont au milieu de terrain. Le problème de ce milieu de terrain, c'est que Gay a disparu. Herrera a fait le travail pour deux pendant pas mal de temps parce que Gay était, je sais pas ce qu'il avait hier Gay parce que il a eu une semaine pour préparer le match et en fait j'ai l'impression que c'est lui qui avait joué trois matchs d'affilée. Donc c'était surprenant, sa prestation a été un peu mitigée. Mais derrière, au milieu de terrain, parce qu'il y a quand même les quatre devant, ça veut dire qu'il y a un gros travail défensif à faire au milieu de terrain. On attendait.
Mais justement, Eric, quand même, cette équipe du Paris Saint-Germain, elle prend pas mal de buts. Là, elle en a pris 7 en 6 matchs depuis le début de saison.
7 en 6 matchs avec grosse responsabilité souvent de Kimpembe qui soit est mal placé, soit est pas concentré sur ou rate un geste ou des choses comme ça. Il y a une vraie interrogation du côté de Kimpembe dans son état de forme, dans son état mental aussi, parce que il a quand même pas mal d'absences et il est sur 4 buts sur 7, c'est quand même beaucoup. Hein.
Mais ce qui est intéressant quand même dans ce système-là, moi il me semble, c'est un système qui peut bien leur correspondre s'ils décident de jouer avec leurs 4 joueurs offensifs. Et pourquoi pas, après
il
tout,
pas
ils en sont certainement
même,
capables. Gay a la capacité de venir récupérer des balles. Bon là c'était Herrera, ce sera peut-être Wijnaldum une autre fois, parce que là il était un peu fatigué Wijnaldum, mais la doublette pourrait peut-être fonctionner. Évidemment ce sera Verratti le jour où
Verratti.
Alors le problème c'est quand Verratti sera là, lui c'est pas un pur récupérateur non plus. Alors, si vous laissez Gay seul, il aura beaucoup de travail le pauvre.
Juste Hervé, vous parlez à juste titre de combat. Effectivement, le PSG n'était pas tout seul, il y avait un grand adversaire en face. Mais prenons l'exemple, dans une semaine à peu près, il y a un adversaire, en l'occurrence Manchester City, qui est aussi un adversaire non négligeable. Je veux dire par là, est-ce que les quatre, est-ce qu'on va pouvoir laisser autant d'espace entre les lignes?
Non, je pense pas.
Parce que quand on connaît le milieu de terrain avec De Bruyne notamment qui va revenir lui à 100%, il sera à 100% pour ce match-là. Il y a des choses que le PSG fait hier ne pourra sûrement pas faire contre
City. Voilà, on est à J-7 là. C'est pour ça que on peut se
poser quelques questions. Je pense pas que tu puisses mettre les quatre, sauf réveil et de se dire voilà, il faut que les mecs ils défendent. Neymar a fait le travail défensif hier.
Neymar aussi.
Mbappé un petit peu, mais pas beaucoup. Mais si, pas du tout, parce qu'on le sait.
Mais Messi, voilà, il fait quand même deux gros retours. Un retour, justement, quand Gaël perd une balle.
Il prend un carton.
Attention, il fait deux retours.
Mais attendez, quand vous avez Messi, il faut le savoir. Vous allez pas lui demander. Si vous avez Messi, le meilleur joueur du monde, qui a 34 ans, il le faisait pas à 26. À 34, vous allez dire, mais toi, tu vas te courir, toi.
Le truc, c'est que on a des, là, tout à l'heure, tu parlais des joueurs, la relation entre les trois devant. Elle est différente aussi parce que le niveau physique des trois est complètement différent. C'est-à-dire que Mbappé était le plus aussi en forme des trois. Là, Neymar est en train de bien revenir. Messi retrouve un petit peu de consistance, mais on sent quand même que
c'était son premier match.
Voilà.
En plus,
donc franchement, déjà quand on aura retrouvé un équilibre de travail physique pour les trois, la liaison se fera
facilement. Ce qui va être encore une fois rageant, et on le disait même en avant émission, c'est que ça va être encore coupé par la trêve internationale, avec en plus des matchs en Amérique du Sud qui vont être très tard, donc ils vont pas pouvoir jouer le match de championnat. Enfin, là encore, ça arrive pas.
J'allais dire, ce sera un moindre mal parce que à force d'enchaîner les matchs, il vaut mieux qu'ils ratent des matchs de temps en temps.
Exactement.
Donc je préfère encore qu'ils aillent jouer là-bas, même s'il y aura la fatigue. Championnat, pour l'instant, ça se passe bien, donc il vaut mieux assurer le championnat en se disant faire jouer les autres.
Et puis, c'est un problème de riche. Tous les grands effectifs, c'est ça, voilà, ils jouent des matchs internationaux, sinon ils ont qu'à prendre des joueurs qui sont pas internationaux.
Mais le souci, c'est qu'il y a trois matchs dans ces matchs-là.
C'est exceptionnel avec l'histoire de la Coupe.
C'est le problème qu'il y a. Absolument. En tout cas, s'il y a eu le pénalty qui a fait beaucoup parler, il y a aussi un autre événement autour de ce match qui fait parler, c'est évidemment le remplacement de Lionel Messi.
Et messieurs, Achraf Hakimi devrait remplacer Lionel Messi, la star argentine. Lionel Messi qui ne s'y attendait pas, vu sa réaction.
Et oui, la Pulga argentine, la star mondiale, sortie la première de l'effectif à la 76e minute. Alors en France, en Espagne, en Amérique du Sud, le débat est très animé. En sortie de match, Mauricio Pochettino s'est immédiatement justifié. En tout cas, il a essayé.
Tout le monde sait que nous avons des grands joueurs dans un effectif de 35. La première décision consiste à choisir les 11 joueurs qui vont démarrer le match, car on ne peut pas en mettre davantage. Et puis, pendant la rencontre, on prend des décisions en pensant à ce qui est meilleur pour l'équipe et pour chaque joueur. Tous les entraîneurs agissent pareil. Après, les décisions prises sont parfois efficaces, parfois pas. Parfois elles plaisent, parfois pas. C'est comme ça.
Est-ce que Mauricio Pochettino a tapé du poing sur la table en se disant je sors Messi.
Depuis qu'il est sur le banc du PSG, on ne cesse de le critiquer, pas que lui d'ailleurs, même ses prédécesseurs, en disant ils ont pas le courage de sortir Neymar, Mbappé, c'est lui qui dirige le PSG, enfin qui est au-dessus de l'institution, etc. Pour une fois, quelqu'un fait quelque chose. Et Messi, on l'a dit auparavant, en seconde période, il était pas là. Il était moins présent, donc de le sortir tactiquement parlant, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et il s'est justifié comme ça d'ailleurs, Mauricio Pochettino. Après, on a vu des images pour le coup qui ont beaucoup circulé aujourd'hui d'ailleurs, où il y avait des caméras isolées sur Messi, où on voit Messi vraiment se toucher le genou, se manipuler le genou gauche, me semble-t-il.
Celui où il a eu le tacle de
exactement.
Adrian Martinez.
Et donc, est-ce que Pochettino au final, c'est une précaution de sa part et de se dire, oh là, je préfère le faire sortir, j'ai quand même City dans une semaine, etc. Ce qui aurait pu s'entendre, mais il n'en parle pas. Donc au final, je suis là, je me dis,
Messi n'a pas demandé à sortir.
Je veux bien cette explication. Si à la fin, vous dites, oui, effectivement, j'ai pris la décision de le sortir pour pas aggraver une petite douleur qu'il peut avoir. Bon,
on a besoin
de lui. Mais surtout, c'est que Messi aurait été au courant. Parce que si vous sortez Messi comme ça, faut qu'il le sache.
Non, mais je pense
qu'il faut lui dire, il faut le prévenir avant.
Parce que, discours,
mais surtout, c'est le premier qui sort et c'est pas forcément celui qui est le moins bon sur le terrain.
Non,
c'est quand même le moins bon des quatre. Donc, moi, je pense que c'est plutôt logique de sortir Messi. Après,
Vous sortez Messi, vous coach.
Je l'aurais pas sorti parce que j'aurais voulu qu'il continue pour avoir du rythme. Mais je suis pas sûr que ça lui aura donné du rythme, plus de la fatigue que du rythme. Mais voilà, je pense que voilà, lui il a fait le choix de le sortir. Et il a bien fait, puisque derrière Hakimi et Icardi, ça finit ton match.
Mais Hervé le dit, on sort pas Kerrer comme on sort Messi.
Oui, bah, on aurait dû sortir Kerrer.
Mais on lui fait comprendre avant, on lui fait passer le message par Gay, Herrera ou je ne sais qui. Et Léo, tu vas sortir dans un instant.
Et il faut discuter avec son joueur, soit avant le match, en disant je te préviens, comme je trouve que physiquement tu as besoin de reprendre, tu joueras 60-70 minutes, comme Boateng par exemple. Oui. Mais le problème, c'est que Messi ne sort absolument jamais. Rappelez-vous à Barcelone, il avait été sorti, ça avait été un scandale.
Avec Ernesto Valverde à l'époque, on se souvient.
Ça avait été un scandale
à Bilbao quand il l'avait sorti. Hein.
Et le pire, c'est qu'il faut quand même, il faut bien recontextualiser un petit peu cette histoire Messi. Messi joue son premier match avec les fameux trios, au Parc des Princes, dans l'un des deux plus gros matchs du championnat de France.
Et il est titulaire.
C'est joué Atlético Madrid ou Real Madrid. Et c'est être sorti contre le Real Madrid ou contre l'Atlético Madrid. Donc au moment où il a vu son numéro, si on ne lui a pas prévenu avant, il dit « mais je suis dans un monde de fous ». C'est-à-dire je suis Lionel Messi, la méga star absolue du football mondial, et vous me faites sortir plus grand match. Si vous le faites sortir contre trois, à la rigueur, il peut l'accepter.
C'est même pas ça, c'est que.
Mais c'est un truc de.
Et il y a 1-1, c'est pas genre tu gagnes 3-0, machin, il y a 1-1,
c'est ça
que tu dis, mais.
C'est vrai, c'est vrai.
Là, on sous-entend, et franchement, on sous-entend, c'est quand même un poids mort, ce pauvre Messi. Allez, on va le sortir, on va faire. Non,
pour gagner le match, il faut qu'on sorte Messi.
Ça, c'est que de l'ego, mais c'est ce qui est arrivé. Tu l'as sorti, t'as gagné le match.
C'est que de l'ego, mais il faut pas. Alors, je sais pas. Quelle est sa relation avec Pochettino, ça peut être bien s'arranger, il n'y a pas de souci. Mais on parle quand même d'un joueur qui a un ego surdimensionné, parce qu'on parle toujours de Ronaldo. Parce que Ronaldo, vous lui faites un truc comme ça, vous l'avez perdu.
Messi, c'est un boudeur, on sait. C'est un boudeur.
Est-ce qu'on ne peut pas avoir été considéré comme le meilleur joueur du monde et être considéré comme le meilleur joueur du monde, voire peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football, et accepter d'être remplacé comme ça à un quart d'heure, sans raison, dans le match le plus important du championnat de France, avec Marseille? Alors imaginez la prochaine fois, ça va être Marseille, la 70e, dit, allez, Lionel, tu peux sortir. Là, je crois qu'il revient même pas sur le banc.
Remplacé par Hakimi.
Je pense qu'il revient même pas sur le banc.
Remplacé par Kerrer contre Marseille. Là, c'est bon, il s'en va.
Là, il va voir Pochettino, il dit, Mauricio, c'était très sympa de t'avoir connu. Attends, j'ai un coup de fil à passer. Allô, El Prince. Il y a Zinedine Zidane qui est encore libre.
Écoute,
si vous
voulez. Après, franchement, il y a des matchs qui arrivent et on a besoin de lui à 200% contre Manchester. Donc, c'est voilà. Peut-être que.
Mais fais-le pas jouer mercredi. Dans ces cas-là,
ouais,
c'est vraiment
exactement.
Que...
C'est
à Metz, où ils vont faire un petit 5-0 et on va être content.
Et pas à Montpellier.
Voilà.
Ça lui met une semaine de récupération, il sera peut-être mieux.
Bon, alors, on a beaucoup parlé du Paris Saint-Germain, mais moi, je voudrais qu'on parle maintenant des Lyonnais. Parce que cette équipe, elle semble quand même se trouver de mieux en mieux sur le terrain par rapport au début de saison qui a été un peu poussif. Et c'est ce qui plaît, on va l'entendre à l'entraîneur francophone, parce que lui, il nous parle en français, alors on aime l'écouter, Peter Bosch.
Je pense qu'on ne mérite pas de perdre aujourd'hui. On a vu un vrai match, pas peur de jouer. À mon avis, on a très très bien fait. Moi, je dis toujours, quand tu ne peux pas gagner le match, il ne faut pas perdre non plus. Et là, on n'a pas bien défendu à la fin, les dernières minutes. Le reste, je suis très fier de mon équipe, parce qu'on a bien joué. Malheureusement, avec un mauvais résultat.
Fier de son équipe. Hervé Penaud, en plus de plusieurs joueurs, alors je vais citer les Brésiliens.
Ça ne m'étonne pas, ça.
Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, mais il y a aussi évidemment Toko Ekambi, Jérôme Boateng. C'est une équipe qui s'améliore au fil des matchs. On avait vu à Glasgow, alors c'était compliqué d'aller jouer là-bas, mais en même temps, ils s'en sont bien sortis. Et vous avez l'impression, Hervé, que la sauce prend de plus en plus, la sauce Bosch.
Bizarrement, j'ai l'impression que finalement la série est toujours en cours. Ils restaient sur 3 victoires consécutives, là ils perdent, mais ça ne doit pas obscurcir l'embellie qu'on a vue depuis le début de saison. Parce que franchement, sur ce match-là, c'est certainement le meilleur match qu'ils ont fait de la saison. Parce qu'en face, c'est quand même Paris Saint-Germain, hein, puis avec tout le monde. Il faut bien poser le problème. Et ils ont été énormes. Énormes dans la volonté de faire mal à l'adversaire.
Ils n'avaient pas peur, je dirais.
C'est exactement ça.
Ils ne sont pas arrivés là.
Et c'est exactement ça. Et je pense, c'était peut-être d'une certaine manière, alors entre guillemets, presque mieux de jouer contre le Paris Saint-Germain pour eux, parce que quand ils jouent contre des petites équipes, des fois ils n'osent pas complètement faire pressing tout terrain parce qu'ils ont peur d'être pris dans leur dos contre des équipes moins fortes. Depuis le jour où ils menaient 3-1 contre Clermont-Ferrand, ils ont été rattrapés 3-3, il y avait 10 minutes de plus, ils perdaient 4-3. Donc là, d'une certaine manière, comme on les attend pas, ils jouent un peu le rôle d'outsider et ils ont vraiment fait le jeu que voulait Peter Bosch, sauf peut-être en deuxième période où ils étaient obligés un peu plus, mais après il y a le rapport de force qui s'instaure dans un match de football,
ouais, et puis la fatigue un petit peu
bien entendu, et vous avez notamment un Paqueta qui a rayonné sur le match, parce que non seulement il marque un but, non seulement c'est plutôt un joueur offensif, mais c'est un guerrier.
Oh là là.
C'est, je crois que c'est l'un des joueurs les plus durs.
Il a fait 40 fautes, je crois, hier. Alors, il n'a pas pris de carton, mais il n'empêche que j'ai bien aimé quand même
ce côté guerrier, justement.
Ah ouais. Il est important. Il oblige les autres à le faire aussi. Parce qu'à un moment, quand vous avez, Eric peut nous en parler, mais quand vous avez un joueur dans une équipe qui est un tueur comme ça, si vous êtes à côté, vous avez un peu honte de pas vous mettre les mains dans
C'est vrai, c'est une dynamique. Il met en place une dynamique et du coup, il emmène un petit peu tout le monde. Ça a été le cas hier dans l'ensemble de son match. Ils ont été plutôt costauds et je pense que ce Lyon là va faire une belle saison. S'ils arrivent à garder le rythme, ils vont faire une belle saison.
Le recrutement de Boateng, Emerson. Alors Shaqiri, on va voir
Emerson. Les latéraux, parce que les latéraux ils font du boulot. Hein.
Bien sûr, mais Emerson, Boateng, ce qui manquait vraiment de patron derrière, parce que Boateng, il est pas en condition physique.
Non, il fait même pas le match en entier.
Mais il a été parfait dans son placement et on sent qu'il s'énerve jamais, il est calme et je pense qu'il va rejaillir,
il rayonne dans ce secteur,
et Emerson très bon.
Et j'allais dire, ça a toujours été le cas à Lyon quand ils ont eu des grands défenseurs centraux, ça s'est toujours bien passé. Là ils avaient perdu un peu le fil, donc là avec Denayer ça marche plutôt pas mal, donc ça doit être pas mal.
Salim, moi j'aimerais qu'on insiste peut-être sur un des joueurs hier, parce que c'est un jeune lyonnais international déjà et tout, mais c'est ce, alors en plus malheureux Malo Gusto, parce que c'est celui notamment qui provoque le pénalty. Mais en tout cas, il a 18 ans. Et lui aussi, hein, on lui dit, t'as Neymar en face. Hein, bonne chance pour tout le match.
Il a remplacé Léo Dubois. Il n'a pas eu que Neymar.
Il a eu Mbappé.
Il a eu
plus de temps en temps Messi.
Il les a tous tenus.
Di Maria aussi.
Et on a l'impression que lui aussi, alors je reciterai les erreurs qu'il a faites, mais en même temps, il était impressionnant sur le terrain.
Oui, non, mais c'est ça. Il aurait largement eu sa place dans la défense adverse, pour le coup, hier, Malo Gusto. Mais vraiment, je le reconnais, j'ai été assez critique envers l'OL en début de saison. J'attends de voir, comme Hervé le disait, notamment dans la continuité et notamment face à des équipes où Lyon est censé être sur le papier meilleur. Mais c'est vrai que cette OL-là m'a vraiment impressionné. Toujours à assumer, par exemple, ses relances courtes. Alors que quand vous avez des joueurs qui peuvent vous presser à tout moment, Mbappé, Neymar, Messi, et aller très vite, maintenant, on assume les relances courtes. Et au final, on perd pas tant de ballons que ça. Enfin, cette manière de jouer... Vraiment, et avec tous ces joueurs, et notamment jeunes, des plus âgés qui encadrent des jeunes, c'est prometteur.
Il faut savoir que Malo Gusto est là parce que Dubois est blessé, il y a un international.
Mais si ça continue, Dubois, il ne reviendra pas.
Il a encore dedans, il a encore un petit peu d'avance. Hein, parce que Léo Dubois, c'est quand même niveau international. Ouais. L'autre, il a 4 matchs de Ligue 1.
D'accord.
Faut laisser. Il est athlétiquement, il est très fort.
Elle est quand même, la prestation, elle est quand même aboutie.
T'as connu quand même des jeunes joueurs qui parfois sortaient des matchs incroyables. La difficulté sur le haut niveau, c'est la continuité. Sinon, dès qu'il y a un jeune qui sort, on le mettrait chaque fois. Il n'y aurait plus que des jeunes dans les équipes.
Mais c'est bien aussi qu'on donne cette confiance aux jeunes, à la jeunesse.
Absolument.
Et puis Anthony Lopez, quand même, dans les buts, à noter aussi.
Les deux joueurs, à mon avis, clés de cet effectif depuis quelques temps, c'est Anthony Lopez et Paqueta, effectivement.
Anthony Lopez. Olympien, nous parlerons demain de l'OM. Nous avons réservé le sujet pour demain parce que c'est un peu long aussi. Et n'oublions pas qu'il y a une 7e journée de championnat de France. Ça sera déjà mercredi soir. Et notamment, le PSG ira à Metz alors que l'OL recevra 3. Mais restons en Ligue 1 pour quelques instants. Nous allons parler d'un moment pas très agréable.
C'est le jeu d'enfant qu'on a l'habitude de voir, qu'on n'a pas trop vu en première mi-temps, ou un petit peu plus en deuxième.
Plus de ballon contre l'orienté de Kakuta avec Frankowski. Frankowski, le contre favorable, bien relais Frankowski.
La fête est un petit peu gâchée, c'est à cet endroit-là du terrain, des tribunes, que ça a dégénéré, surtout entre le parquage lillois et les supporters lensois. C'est là que le bas a blessé aujourd'hui.
C'était le derby du Nord, un rendez-vous que le pays des ch'tis attend chaque année. Et les deux équipes se retrouvaient en plus a priori devant l'un des meilleurs publics de France, dit-on, celui de Lens. Mais déjà, deux banderoles bien peu avenantes dans le stade attendaient les supporters des Dogs. Et puis à la mi-temps, eh bien, envahissement de pelouse. Alors on va pas compter s'il y avait plus de Lensois ou de Lillois. On a eu l'impression, en tout cas ceux qui étaient au stade et qui ont étudié déjà les images disent que c'était plutôt les Lillois qui ont commencé à descendre sur la pelouse. Bref. C'était pas très beau à voir, ça a duré trois quarts d'heure au lieu de durer un quart d'heure, cette mi-temps. Et au surlendemain, première sanction déjà tombée de la part de la Ligue. Alors deux matchs de suspension pour les Lensois, c'est-à-dire à huis clos, mais aussi interdiction de déplacement pour les supporters lillois. Plus de parcage pour l'instant. Salim, est-ce que... On se demande, parce qu'il y a eu ces incidents il n'y a pas si longtemps,
à Nice.
Les sanctions ont mis beaucoup de temps à tomber, là on les fait tomber tout de suite. Est-ce que ça change quelque chose? Et surtout, est-ce qu'il faut punir tous les supporters pour quelques imbéciles qui, on ne peut pas appeler ça des supporters?
Mais malheureusement, alors c'est toujours triste parce que c'est toujours une minorité au final qui pénalise la majorité, bien sûr.
Là, peut-être qu'ils étaient 100 sur 40
000. Oui, bien sûr, absolument. Mais si il faut commencer par cela pour qu'un moment donné, même cette minorité se dise « Eh mais attends, en fait, si ça continue, je ne vais même pas pouvoir suivre mon club, ne serait-ce qu'un minimum, vous l'avez dit, il y a des déplacements qui vont être interdits, soit pour Lille et d'autres clubs peut-être vont être punis comme ça. Même la minorité se dira « Attends, en fait, il y a des choses que je ne peux plus faire, en fait, je ne peux plus continuer comme ça, faut que j'arrête. » S'il faut en passer par là, malheureusement, c'est très triste, hein, mais je le pense comme ça, oui, il faut punir, malheureusement, que tout le monde soit touché par ça pour qu'à un moment donné, ça réagisse.
Eric, c'est ça qui peut servir de leçon ?
Bah déjà, il faut.
On a l'impression que là, un mois après
être,
Nice,
moi, je pense
ça
qu'il faut être sévère.
Leçon.
Ouais, mais il y a qu'en France qu'on voit ça. On a vu ça à Nice, on voit ça là, mais dans.
Il y avait Montpellier aussi le premier match, Montpellier-Marseille aussi.
Exactement. Sur les autres tours, dans les autres pays, on n'entend rien du tout.
Quelle est l'explication ?
Bah,
un certain défoulement après un an et demi privé de stade.
Alors la frustration, elle doit exister, bien sûr, évidemment, mais. C'est pas une excuse.
À la mi-temps, ils étaient à 0-0.
Non, mais ils ont fait monter au fur et à mesure de la première mi-temps.
Pardon, Eric, je me permets de t'interrompre.
C'est la dernière fois, hein, parce qu'Eric n'aime pas être interrompu.
Non, mais vous lui posez la question pourquoi en France, j'ai envie de dire, parce que les sanctions sont faibles. C'est tout simplement.
C'est
en Angleterre, c'est très. En Angleterre,
si tu mets des années et tu mets des.
Là,
je peux te dire que
très
ça.
Clair, très concret. C'était la semaine dernière à Chelsea. On a entendu un supporter évoquer des insultes à caractère antisémite. Cela a été visualisé par les caméras vidéo. Le supporter a été trouvé, d'une part, banni à vie du stade de Chelsea, d'une part, et d'autre part, poursuivi en justice. C'est très simple. Vous l'avez vu, en quelques jours à peine.
C'est sûr que
ça réveille.
Là, tu vas pas t'amuser.
Là,
c'est ça.
Bah oui,
mais
bien sûr,
mais le problème, c'est qu'en France, et on a vu des choses bien sales ces dernières semaines. Pour l'instant, je vois rien.
Il y a des sanctions globales, mais il n'y a pas de sanctions individuelles. Et finalement, on a l'impression que ça sert pas de leçon.
On va peut-être en avoir à Nice, hein, puisqu'on avait vu que le supporter, lui, il va y avoir un procès. Donc, on va voir exactement ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, moi, je suis 100% d'accord. Il faut des sanctions sévères. Et puis, arrêtez de dire les préfets ont tort de refuser les déplacements. Si certains groupes de supporters sont incapables de se déplacer, et ben, qu'ils se déplacent. Pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment, faut que les choses soient sérieuses.
C'est
idiot.
Le problème, c'est que ça donne raison, c'est ça. Ces actes-là donnent raison au préfet.
Absolument. C'est triste, mais au final, c'était mieux à huis clos. C'est triste. Au moins, pardon, mais au final, zéro
très
violence.
Très mieux, mais il n'y avait pas de problème, c'est sûr.
C'est triste, mais
c'est triste, mais je préfère quand même avec du public.
Autant prendre des sanctions comme ça.
Voilà, prendre des sanctions,
on pourra profiter.
Allez, on verra s'il y a des sanctions plus individualisées et plus sévères plus tard. Direction l'Angleterre.
Dyke, a new boy Konate up for this one. Simikas, Salah, fine save, goal number 100 for Liverpool, for Sadio Mane.
Un premier but pour Liverpool signé Sadio Mane. C'est le 100e pour l'international sénégalais qui a ouvert la marque donc et contribué à remporter le 4e match de Liverpool grâce, Liverpool a eu la chance avec ses 3 joueurs africains. Mo Salah a marqué lui aussi et puis Naby Keita et c'était 3-0 contre Crystal Palace. Avant qu'on en vienne à Sadio Mane, mais les Reds, sont à la première place de la Premier League. Salim Baumgali, ils sont là pour y rester. Ils veulent rééditer leur exploit d'il y a 2 ans.
Je prolonge votre propos. Ils sont à égalité, même premier, mais égalité parfaite, absolument parfaite avec Chelsea. D'ailleurs, c'est drôle. Sur les 5 premières journées, à chaque journée, il y a eu le même score. À chaque journée, première journée, Chelsea gagne 3-0, Liverpool gagne 3-0.
Pourquoi c'est eux devant?
Comment?
Pourquoi c'est eux devant ?
Non, au carton en jaune, ah, en l'occurrence. Voilà. Donc Liverpool a pris moins de cartons jaunes que Chelsea.
Ça, c'est un critère donc, qui
alors, c'est un critère, c'est un critère qui compte pour les 37 premières journées et pas la 38e, puisqu'à la 38e, s'il y a égalité parfaite, il y a un match de barrage.
Ah, donc, donc ça sert à rien.
Voilà, il y a un match de barrage.
C'est juste pour te donner l'espoir pendant la saison.
Voilà, et il y a un match de barrage au cas où il y aurait égalité demain, à la 30e. Mais donc, il y a eu les mêmes scores à chaque journée. Et c'est vrai que Liverpool a montré face à Palace, c'était pas si évident, hein. 3-0, mais 3 buts sur coup de pied arrêté, hein, sur 3 corners derrière les 3 buts. Palace a vraiment bien démarré la rencontre, notamment avec 2 poteaux sur les 5 premières minutes. Alisson a été très bon sur les premières minutes en question, mais après, Salah, Mané a été excellent, lui qui a été un peu agacé sur le match d'avant, il avait raté beaucoup face à Leeds, là il était bien meilleur. Salah omniprésent aussi, Naby Keita, un but magnifique de la part de Naby Keita, et Liverpool a un petit peu fait tourner aussi, Ibrahima Konaté aussi, première titularisation, et le Van Dijk Konaté quand ça va être à 100% tous les deux, on parlait de connexion à l'attaque du PSG, bah, la connexion défense Liverpool, ça pourrait faire très mal dans les prochaines semaines.
C'est peut-être ça le point positif de Liverpool, ce qu'on disait dans une émission précédente. Le retour de Van Dijk qui sécurise défensivement cette équipe de Liverpool.
On sait que l'année dernière, on
a toujours
en plus,
le même potentiel.
Pas que Van Dijk était,
voilà, on a,
qui était
on a toujours le même potentiel devant qui fait que voilà, ça, tu peux t'appuyer et t'as cette sécurité derrière. Donc et Alisson qui revient aussi.
On a l'impression que c'est un peu toujours les mêmes, je dirais. Liverpool, il y a eu très peu de renouvellement. Wijnaldum est venu au PSG, mais et que malgré tout, ben ils ont toujours cette club, cette rage un peu de.
Là, c'est la patte de l'entraîneur, hein, j'allais dire, c'est qu'il est capable de, je sais pas, de réinventer. De mobiliser, chaque fois, de remobiliser ses troupes, parce que c'est pas simple, hein. Quand vous gagnez, c'est pour ça que les équipes, même des ultra dominatrices, elles gagnent pas tout le temps. À un moment, ça s'arrête. Même le PSG en France, à un moment, ça s'est arrêté.
Et c'est souvent même psychologique, Lyon, plutôt
pourquoi
que
PSG
technique.
Mais même la Juve s'est arrêtée de gagner. Donc, à un moment, ça s'arrête. Et c'est vrai que c'est sa grande force. Et à l'intérieur de son groupe, il a des joueurs qui jouaient peut-être des fois un peu moins. Oui. Et puis là, on va avoir un peu plus l'occasion de jouer. Jota, par exemple, a joué un petit peu plus depuis le début de saison. Jota, c'est ça.
Il n'y a pas de Jota, justement, en portugais.
Ça.
Excusez-moi.
C'est ça. Donc, la Jota. Donc, Naby Keita a fait un très, très bon début de saison. Quand il a joué, il a toujours été très bon. Pour moi, c'est un joueur que j'adore parce que je trouve qu'il a une fluidité, une finesse dans le jeu qui est magnifique. Malheureusement, il a des blessures un peu fréquentes
souvent
qui l'ont empêché.
Mais là, c'est peut-être l'année Naby Keita.
Et comme il disait, il y a Konaté qui vient d'arriver. Alors bon. Konaté, il y aura, à mon avis, un peu de travail sur les dernières fois où je l'avais vu, parce que c'est un peu Brutus quand même. Donc il va falloir qu'il aussi, il soit un peu plus fin techniquement. C'est pour ça que ça fonctionne bien entre Matip et
Liverpool. Elle est quand même toujours bien faite. On avait Fabinho qui a eu le temps de s'intégrer au fur et à mesure. Donc ça, c'est plutôt bien pour les joueurs.
Et juste, je complète par rapport à la Van Dijk. C'est vraiment important parce que avec Van Dijk, par rapport à la deuxième partie de saison de l'année dernière, vous voyez un Liverpool qui joue, et c'est pas une blague, 20 mètres plus haut que la saison dernière. Et le fait de jouer plus haut, notamment dans le jeu de Liverpool, les latéraux ont un rôle essentiel. Ces latéraux sont, eux, beaucoup plus hauts. Et quand vous avez Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson, c'est-à-dire deux des meilleurs centreurs de première ligue, forcément, quand ils sont plus hauts, les centres arrivent plus vite dans la surface.
Ce qui est drôle, c'est qu'ils centrent beaucoup sur des joueurs qui sont petits. Mais avec des belles détentes. Sadio Mané, pas un grand joueur, mais il a une énorme détente.
Ils sont toujours en mouvement.
Leur match d'ailleurs contre Milan a été très intéressant, même s'ils sont menés 2-1 à la pause contre Milan, en prenant deux buts, c'est les deux seules minutes où Milan est sorti de son camp quasiment. C'est absolument incroyable.
Ultra
mais ils ont été capables de faire un match sans Van Dijk, sans Mané, assez impressionnant aussi. Non, on sent vraiment une équipe solide. Maintenant, attention à la CAN. Là, ça va être le moment.
Là, il y aura trois Africains au Cameroun avec nous.
Bah oui, parce que là, il y aura trois. Ah bah oui, on y sera.
Alors justement, parlons de Sadio Mané quand même. Il a inscrit son 100e but en tant que Reds. Et chez les Reds, pardon, en tant que Reds. Et Jürgen Klopp, eh bien, il en parle avec passion de son joueur.
Sadio nous aide tellement, vous savez. Les gens oublient qu'au-delà de ses 100 buts, il travaille énormément. Il défend pour nous, presse haut, fait du contre-pressing et surtout, nous procure un nombre incalculable d'occasions. Je suis vraiment heureux pour lui qu'il ait pu atteindre cette barre. C'est un véritable exploit. Seuls 18 joueurs dans l'histoire du club ont atteint ce cap. C'est tout simplement un joueur de haut niveau.
Alors, Sadio Mané, c'est 100 buts, toutes compétitions confondues, avec Liverpool, alors que Mo Salah, lui, c'était, on en a parlé il y a quelques jours, c'était 100 buts, mais 100 buts en première ligue. Donc, c'était un petit peu différent parce qu'il a joué ailleurs, notamment à Chelsea, avant. Sadio Mané, toujours aussi brillant pour sa cinquième, hein, c'est cinquième ou sixième,
cinquième
saison depuis 2016, hein, c'est ça. À Liverpool.
Magnifique joueur, magnifique état d'esprit, c'est un type bien. Ça, franchement, surtout.
C'est
super.
Ça qui est pas.
Moi, j'ai eu la chance d'aller sur ses traces, hein, à Génération Foot là-bas, du côté de pas très loin de Dakar. Et vous voyez, il y a déjà des traces de ce qu'il a laissé là-bas, parce que c'est quelqu'un qui a donné beaucoup. Il a une personnalité incroyable. Je fais des émissions de télé avec un joueur qui s'appelle Pierre Boubi, un ancien joueur, hein, et qui l'a connu à Metz à ses débuts. Il m'a dit quand il est arrivé, il était d'une gentillesse, d'un talent absolument incroyable, d'une gentillesse.
Mais c'est ça.
Et il est toujours resté le même. Alors des fois, effectivement, il y a des petites sautes d'humeur parce qu'il y a toujours une forme de rivalité, évidemment, chez les joueurs de très haut niveau. Et c'est normal.
Joueurs de très très haut niveau ont un ego, quoi qu'il arrive.
Exactement. Et ce qu'on attend en mettant de lui, enfin, Liverpool très bien, les Reds, tout ce que vous voulez. Mais sur un plan africain, j'allais dire, parce que là, je vais me placer dans cette perspective-là. C'est évidemment qu'il remporte la CAN avec le Sénégal. Cette année, pour lui, je pense que le moment clé, ça va être cette CAN au Sénégal, parce que c'est un joueur qui adore son pays, qui donne tout pour son pays. Enfin,
pour son village et aussi, pour son village, n'oublions pas. L'école, l'hôpital.
C'est absolument énorme. Rappelez-vous quand ils sont éliminés par le Cameroun en 2017, il rate son tir au but, mais il est dans un état, mais c'est absolument incroyable.
Au
il
Gabon,
est détruit,
à Franceville.
Totalement détruit. Il perd la dernière finale encore, et je pense qu'il a une revanche à prendre vis-à-vis de la sélection nationale, et je pense que ça peut être même peut-être son année, mais ça va être son grand rendez-vous, je crois, de la saison.
Voilà pour ce qui est de Sadio Mané. Je crois qu'on est tous d'accord de vanter les mérites de l'international sénégalais. Alors on continue, on va parler eh bien de ceux qui sont au basque,
hein, oui.
Au basque de ces Reds, et ce sont donc les Blues.
Well, this second half performance by the team in blue looks like they've had it from the boss. N'Golo Kanté, deflection, goal.
N'Golo Kanté, c'est dévié.
Et but.
Oh là là là, ils ont tout en plus. Chelsea, de toute façon, est plus fort, trop fort pour Tottenham.
The Blue Boys are in charge.
Kanté a marqué, il est petit, il est gentil. Hein. Vous vous souvenez de ce refrain de 2018 ?
Il est petit, il est gentil.
Allez, chantez.
Il est bon, je me souviens plus.
Il est surtout bon.
Il est petit,
il est petit. Il est gentil, il a...
Enfin, j'avoue, je ne l'ai plus.
Je n'ai pas les paroles, mais j'entends bien la chanson.
Faudra qu'on vous la repasse.
C'est ça.
Il est petit, il est gentil, il a dribblé Lionel Messi.
Léo Messi.
Je ne
sais plus sur quel air c'était. Évidemment, on avait emprunté ça. Bon, les supporters. N'Golo Kanté, donc.
Champs-Élysées de Joe Dassin.
Il est petit, il est gentil, il a dribblé Léo Messi.
Voilà.
Mais qu'est-ce que vous avez de la culture ici? C'est dingue ça.
On m'avait pas dit que c'était karaoké.
Quelle émission? En fait, c'est apostrophe.
On est encore plus loin.
C'est karaoké. Bon, donc N'Golo Kanté, il est surtout extrêmement efficace. Il a joué hier 30 minutes, c'est ça?
45.
Pardon, deuxième mi-temps, effectivement. Excusez-moi. Il a crevé l'écran et il a mérité surtout les éloges de la Première Ligue dans son ensemble.
Encore.
Hier, honnêtement, il a été un surhumain. Je blague pas. À la mi-temps, donc 0-0 entre Tottenham et Chelsea. Bien plus. Hier, donc 0-0 entre Tottenham et Chelsea. Chelsea a quelques pseudo-cases, mais arrive pas trop à se rapprocher de la cage, justement, de Tottenham. Tottenham a pas d'opportunité non plus, mais Tottenham, au final, tire bien Lukaku. Lukaku, on en trouve très peu, en première période. Seconde période, il décide de faire un changement. Il retire un attaquant, Havertz, en l'occurrence, et il met Kanté. Là, sur le coup, on se dit, bon, d'enlever un attaquant alors que tu t'as pas beaucoup de cases. Kanté a tout changé. C'est incroyable de voir le changement qui a eu lieu. Juste, Eric, hier, Kanté, en fait, faut vraiment qu'on se pose deux secondes parce que Kanté, défensivement, on sait tout ce qu'il sait faire, c'est-à-dire gratter les ballons et tout. Kanté, offensivement, je crois que parfois on oublie aussi ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la projection qu'il peut avoir sur un terrain. Hier, c'était colossal. La manière dont, à la moindre récupération, il donnait pas forcément la balle de suite, mais il arrivait à passer 5, 10, 15, 20 mètres et ensuite à bien donner le ballon. Techniquement aussi, est-ce qu'il avait le récit de dingue? C'est possible, mais hier, il avait un dribbling facile. Hier, il y a eu des séquences où je me suis dit, mais attends, c'est le meilleur joueur du monde. C'est pas possible. Kanté était incroyable.
Et ils l'ont pas sorti, alors?
ils l'ont pas titularisé.
Oui, parce qu'il était pas à 100%
alors,
encore.
On va écouter Thomas Tuchel.
Tu vois, alors.
On va écouter Thomas Tuchel. Lui aussi, évidemment, ne tarit pas d'éloges.
Si vous avez N'Golo sur le banc et que vous voulez monter en puissance dans ce genre de match, c'est le meilleur joueur à faire entrer. Parce qu'il est unique et peut changer n'importe quelle dynamique. Si vous avez N'Golo, vous avez quelque chose que tout le monde veut. Vous avez de l'abattage, de l'intensité, des ballons gagnés, du jeu habile, du jeu sans et avec ballon, des dribbles et même un but sur ce match. Je le vois tous les jours à l'entraînement et c'est difficile de croire à quel point il est bon. C'est un joueur unique. Pas besoin d'en dire plus. N'Golo, c'est N'Golo, il est fantastique.
N'Golo is N'Golo. N'Golo sur le banc quand même. Alors, vous dites qu'il n'était pas à 100%, absolument. C'est pour ça. Parce qu'on se souvient à l'époque de Sarri, par exemple. Sarri, il n'était pas très fan et il le laissait aussi.
Parce que Sarri était fan de Jorginho.
Il préférait
Jorginho, sauf que Jorginho, il a mis du temps à se mettre en place au début. Ce n'était pas ça du tout. Aujourd'hui, il est devenu un joueur essentiel. Mais au début, c'est vrai que Jorginho, c'était surtout un joueur qui aimait toucher la balle, faisait beaucoup de passes latérales ou derrière et il ne s'était pas mis dans le jeu de Chelsea. Et Jorginho sur le terrain, Kanté sur le banc. Depuis, ça a évidemment changé. La manière de jouer de Chelsea a changé.
Mm-hmm. Mais c'est le joueur déterminant. C'est lui qui vous fait gagner la Coupe d'Europe.
Bah en équipe de France, je crois qu'on le sait un peu.
Mais
hein.
Nous, on le sait parce que
quand
c'est
il est
lui,
pas là.
Mais il sublime en fait. Et on parle de Pogba qui a énormément
beau,
de
beau
talent.
Terme.
Il a énormément de talent. Il est voilà, c'est un très bon joueur, Pogba. Mais moi, je pense que Pogba ne peut pas jouer en équipe de France sans Kanté à côté de lui. C'est impossible. Soit vous le mettez numéro 10 ou devant. Mais vous pouvez pas le mettre en milieu de terrain à côté de Kanté, à côté
sans
d'un
Kanté.
Autre joueur, si, parce que Kanté fait le boulot pour deux défensivement, parce que Pogba veut pas faire le travail. On peut le comprendre, c'est un joueur qui est plus porté sur l'avant, qui a le talent pour amener la différence offensivement. Mais quand Kanté est là, voilà, il peut tout faire. Mais quand Kanté n'est pas là, et on l'a vu, et quand Kanté est fatigué, on l'a vu à l'Euro, et qu'il peut plus faire le travail pour deux. Et eh ben l'équipe de France se retrouve en difficulté et c'est exactement ce qui se passe à chaque fois. Donc Kanté est capable de faire des choses extraordinaires. Quand t'es meilleur joueur à la demi-finale de Ligue des Champions aller-retour plus la finale, c'est jamais arrivé à aucun joueur, même à Messi, même à Ronaldo, c'est sûr.
Et dire qu'il a failli jouer pour le Mali. Nous étions avec ce bon Salim pour un match qui est Arsenal-Leicester.
Absolument.
Et puis on cherche à voir. Alors grâce à Lim, j'ai pu m'approcher des joueurs parce que normalement j'avais pas le droit. Alors on se retrouve à quelques-uns, 3-4 en zone mixte. Et arrive Kanté. Je dis tiens s'il te plaît, tu peux venir parce que je voulais savoir. Moi à l'époque j'avais mon blog sur le foot africain.
Petit et gentil.
Ah, petit et gentil, adorable, très timide.
Absolument. Bah,
tu te souviens,
ah oui.
Il était là. Je dis bon bah alors qu'est-ce que tu veux faire quoi? Tu veux jouer pour le Mali ou pour la France? Parce qu'à l'époque il n'était pas en équipe de France. Et il savait pas. Ah ouais, il dit bah, je sais pas. Je sais pas. Et hop, je poussais dessus. Il avait toujours pas. À l'époque, il n'avait pas pris complètement sa décision. Et bah depuis, il a pris la décision de jouer pour l'équipe de France.
Je ne sais pas trompé. Je sais pas pourquoi.
Et il est champion du monde.
Et il est champion du monde.
Vraiment, j'insiste. Hein. Défensivement, on est tous d'accord. Mais offensivement, hier, il a été stratosphérique. Ouais. Il est incroyable.
Alors que Messi. Il est stratosphérique offensivement,
mais
défensivement, moi.
Donc,
mais
oui, il sort. Donc, j'insiste, Kanté est meilleur que Messi. Voilà, c'est QFD.
Donc voilà, Chelsea sur une incroyable dynamique. 13 points sur 15, hein, ils ont pris un seul but encaissé en 5 matchs.
Par Liverpool.
Et c'était sur penalty.
C'est
en
ça.
Plus, hein, donc Chelsea qui écrase tout et nous suivrons. Allez, un petit clin d'œil aussi sur le troisième de ce podium, même s'il est un tout petit peu.
Mais non, faut pas parler.
Allez, avec un but.
C'est finalement Fred qui va retrouver sur le côté Bruno Fernandes. Oh, elle est belle cette balle de Bruno Fernandes avec Cristiano Ronaldo
oh
de temps.
Là.
Cristiano Ronaldo, troisième match avec Manchester United et troisième but. Incroyable Cristiano Ronaldo.
Je suis désolé, Salim.
On l'a senti tout de suite, la détresse de Salim.
La détresse.
Je dois sortir. À très vite.
Au revoir, Salim. Mais... Manchester United aurait peut-être jamais dû gagner à West Ham. En tout cas, ils ont gagné avec un but de Lingard à la 89e minute. Hervé, Manchester United, on a l'impression quand même que l'homme liche, c'est déjà Cristiano.
Non, mais ce qu'il en a. Alors là, on parlait N'Golo Kanté. On parlait de Messi. Alors maintenant, on va reparler d'un autre phénomène, Ronaldo. Mais non, mais c'est proprement stupéfiant. Ouais, non, mais il n'y a pas d'autre mot. Je ne sais pas quoi dire. Parce qu'on me dit, il est moins bon, il est moins ci, il est moins ça. Il en est déjà
4 buts et 3 passes décisives.
Et en plus, il aimante les balles. On a l'impression qu'il... Alors, c'est pas qu'il aimante les balles, c'est qu'il sent exactement où va se trouver la balle. C'est ça, là, c'est ce qu'on appelle sentir le jeu, c'est ça. C'est-à-dire être capable de marquer un but facile. La dernière fois, le gardien relâche. Lui, il était déjà dans la course.
Après, c'est un état d'esprit. Il y a le côté sentir le jeu, mais c'est aussi cet état d'esprit qui fait que tu ne lâches jamais l'action, tu te dis toujours que ça peut arriver, et en fait c'est pour ça que ça arrive.
Mais c'est tout à fait Cristiano, ça, c'est-à-dire ne jamais s'avouer vaincu, lui. Mais on l'a déjà vu.
J'avais trouvé ce but assez symbolique, parce qu'on voit que dans cette surface de réparation, au moment où le gardien relâche, il est le seul en mouvement.
C'est ça.
C'est-à-dire que les défenseurs se disent qu'il n'y a pas de risque.
Bien sûr.
Et lui, il est déjà là à 37 ans. C'est-à-dire qu'il joue comme un môme qui a 18 ou 19 ans avec la volonté de faire mal, l'envie. De se faire mal et l'envie de vouloir remporter.
On parlait du mental
encore,
tout à l'heure.
Lui, son rêve, je suis sûr, c'est d'être champion du monde en 2022.
L'histoire est belle quand même. Il retourne un peu à la maison, voilà. Et en plus, il est performant. Et puis, en fait, c'est même pas étonnant. On est même pas étonné parce qu'on se dit, il change de championnat comme s'il jouait tous les jours dans tous les championnats, en fait.
Il a dit qu'il viendra en France à 48 ans.
PSG, c'est ça.
Et qu'il sortirait.
Mais interdit de sortir
à l'extérieur.
Il y a des ados qui ne l'avaient jamais vu jouer. Manchester United qui porte son maillot, c'est absolument incroyable. Messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Oui, merci beaucoup d'y avoir participé. Et à demain, nous parlerons de l'OM, de la Liga, de la Serie A avec Carlos Bianchi. Cool, cool, cool.